L'objectif de Luther et Calvin, se libérer de Rome. Les affiches reprenaient les idées d'un certain Martin Luther. Ce moine allemand, scandalisé par le commerce des indulgences et bien soutenu par les princes allemands, élabore une doctrine appelée « un bel avenir ». Quelques années plus tard, elle est reprise et renforcée par un jeune humaniste, Jean Calvin. Dès lors, le massacre des protestants va commencer. On identifie l'auteur de ce tract, il s'appelle Antoine Marcourt. Il s'est empressé de s'enfuir en Suisse. Mais quelle est donc la perturbation originelle qui a déclenché cet ouragan? Il faut remonter à l'été 1505. Ce jour-là, le jeune Allemand Martin Luther se promène dans la campagne près d'Erfurt, où il termine ses études. C'est un fils de famille plutôt aisé qui se destine à entrer dans la magistrature. Mais il est victime de fréquentes crises d'angoisse, craint la mort et trouve que l'Église n'apporte pas de réponses apaisantes à ses incertitudes. Aussi, en cet été 1505, lorsque la foudre tombe à ses pieds sous la forme d'une boule de feu, il considère ce signe comme une manifestation divine. Dieu l'a choisi. Au grand désespoir de ses parents, Luther entre au couvent des frères Augustins. Il y étudie directement les textes bibliques, obtient de nombreux diplômes. Il effectue un voyage à Rome, où il est scandalisé par les excès de la vie de la famille Borgia et du pape lui-même. La vente des indulgences surtout le révolte. Il s'agit, pour le fidèle, d'acheter une réduction du temps de son futur séjour au purgatoire. Et cette vente, en ces temps d'inquiétude métaphysique, est devenue prospère. C'est qu'il faut beaucoup d'argent au pape pour construire Saint-Pierre de Rome. Il faut aussi beaucoup d'argent à Charles Quint et à François Ier pour payer les grands électeurs, princes, archevêques, qui doivent élire l'un d'entre eux. La veille de la Toussaint 1517, Martin Luther affiche sur les portes de la chapelle de son monastère à Wittenberg en Saxe les 95 thèses sur la vertu des indulgences, où il dénonce la vente des réductions de peine en purgatoire. Cette prise de position contre le pouvoir de Rome le conduit 3 ans plus tard à l'excommunication. Il ne fait plus partie de l'Église catholique, malgré une tentative de conciliation en présence de Charles Quint à la Diète, assemblée de responsables politiques qui votent des lois, de Worms le 18 avril 1521. Luther n'était pas le premier qui ait répandu des idées nouvelles en matière religieuse. Erasme, 1469-1536, un humaniste hollandais, s'est déjà montré critique à l'égard de l'Église catholique. L'humanisme visait à redonner à l'homme, à l'esprit humain, toute sa dignité, en puisant aux sources gréco-latines. Avant Erasme, le mouvement humaniste avait été profondément marqué par la personnalité et les idées de 2 Italiens, Marsile Ficin et Pic de la Mirandole, morts en 1494, dans les bras de qui? Allez chercher la réponse dans ce qui précède, si vous ne vous le rappelez déjà plus. Luther, cependant, veut se démarquer des idées d'Erasme. Il le trouve trop conciliant à l'égard de Rome. Bien sûr, au-dessous de toute cette agitation luthérienne, des aspects moins avouables conduisent les soutiens, notamment celui des princes allemands, auprès de Luther. En effet, puisque celui-ci déclare qu'il n'est plus nécessaire d'obéir à Rome, tous les biens de l'Église en Allemagne ou bien dans les pays qui se rallient à la doctrine de Luther peuvent être confisqués, ni plus ni moins. Les paysans allemands, mis au courant, se ruent dans les églises qu'ils pillent. Mais les princes répriment durement cette révolte, en accord avec Luther qui désapprouve ces briseurs d'images.
Ils protestent, les protestants. En 1529, les premiers adeptes de la réforme luthérienne protestent de leur foi à la Diète de Spire contre un décret de Charles Quint qui veut interdire leur doctrine. Ainsi naît le nom de protestants, ceux qui protestent.
En 1519, les premières brochures de Luther sont arrivées à Paris et ses idées se répandent comme une traînée de poudre, rejointe dans l'esprit de beaucoup par celle des « bibliens de mots ». un cercle qui s'est formé autour de la sœur de François Ier, composé notamment d'humanistes tels que Lefèvre d'Étaples et Brissonnet, qui étudient la Bible. Tous rêvent finalement de se libérer des tutelles, des influences du pape, de l'Espagne, de ne plus dépendre financièrement des banquiers de Florence. Ils veulent créer un État fort, indépendant, libre. Après l'excommunication de Luther, on commence à dresser des bûchers. En 1523, un ermite normand, Vallière, qui a répandu les idées de Luther, est brûlé à Paris. En 1529, c'est un traducteur du moine allemand qui est étranglé, puis brûlé. L'affaire des placards survient dans une atmosphère tendue et suscite une vive émotion. Beaucoup d'intellectuels qui se sont laissés gagner par les idées de la réforme sont envoyés au bûcher à Paris et en province. Un jeune humaniste, admirateur et défenseur des Bibliens de Meaux, Jean Calvin, né à Noyon en 1509, entre alors en scène. Grand lecteur d'Érasme et de Luther, il se fait le défenseur d'un texte réformiste écrit par Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier. Menacé pour cette prise de position résolue, il doit s'enfuir en hâte à Bâle au début de 1535. Cela n'empêche pas les publications favorables à la réforme de se multiplier. François Ier décide alors, la mort dans l'âme, d'interdire l'imprimerie qu'il a tant contribué à développer. Le 21 janvier 1535, il participe à une immense procession expiatoire où sont sorties les reliques que Luther condamne et qualifie de superstition. La couronne d'épines du Christ, une goutte de son sang, une goutte de lait de la Vierge. Et pour terminer la journée, 6 hérétiques sont brûlés sur le parvis de Notre-Dame.
Les catholiques pris de vitesse. La réforme protestante prend de vitesse une réforme qui avait commencé à se dessiner dans l'Église catholique, toujours lente à accepter le changement. Trop lente pour beaucoup de déçus qui vont adhérer aux idées de Luther avec d'autant plus de conviction qu'elle les libère de la dîme qu'il faut verser au clergé. La réforme catholique prend une tournure concrète en 1526, à peine 10 ans après la publication des 95 thèses de Luther. Les frères capucins font le vœu de soulager la misère des humbles dans un esprit de pauvreté, opèrent un retour à la règle initiale de saint François d'Assise. Les franciscains s'en étant trop écartés à leur avis. Ceux qu'on appelle les cordeliers, à cause de leur ceinture de cordes, sont aussi, par esprit de sacrifice, les pompiers de Paris jusqu'à la Révolution. Le 15 août 1534, dans l'église de Montmartre, Ignace de Loyola, un religieux espagnol et boiteux, au siège de Pampelune par François Ier, sa jambe droite fut brisée en 3 endroits, décide de créer la Compagnie de Jésus, les Jésuites, entièrement dévouée à la cause catholique et soumise en tout au pape. Partout où la foi catholique est menacée, elle promet d'intervenir. Ancien soldat, Ignace de Loyola donne une organisation militaire à sa compagnie, dont le supérieur porte le nom de général. Ainsi, le terrain perdu par Rome est partiellement reconquis en France, en Allemagne, en Autriche, par la création de maisons où se donne en exemple une morale plus conquérante que tolérante. Des missions sont organisées pour l'étranger, en Amérique du Sud par exemple. De 1545 à 1563, le Concile de Trente permettra d'affermir l'autorité du pape, de condamner les abus de toutes sortes, de définir le dogme.
Massacre, torture, le sinistre cortège des tragédies dues aux deux religions qui s'affrontent va commencer. Le traumatisme de la nuit des placards, octobre 1534, conduit le pouvoir royal à promulguer un édit en 1539 qui vise à extirper du royaume les mauvaises erreurs. On se rappelle que dans le Luberon vivent les Vaudois, issus d'un mouvement dissident dans l'Église catholique, au temps des Cathares, au XIIe siècle. Ils sont un peu plus de 3000 et forment une communauté paisible, tranquille. En 1545, on les assimile aux agitateurs luthériens et on envoie les soldats les égorger. Les femmes et les enfants se réfugient dans l'église de Cabrières. Elle est incendiée, ils périssent tous brûlés vifs. À Paris, un imprimeur installé à Lyon, correcteur d'ouvrages avec Rabelais et philologue, il étudie les textes à la lumière de leur histoire, est arrêté, emprisonné à Paris et brûlé, après avoir été étranglé, place Maubert, au milieu de ses livres. À Meaux, le 8 septembre 1546, les réformés sont arrêtés, où ils tenaient leur réunion secrète chez Étienne Mangin. Le Parlement les juge, 14 d'entre eux sont condamnés à être torturés sous les yeux de leurs compagnons, puis à être brûlés vifs. La maison de Mangin est rasée et une chapelle est construite à la place. Malgré tout cela, les idées de la réforme progressent.
Rabelais, vous aimez ? François Rabelais, le merveilleux François Rabelais, écrivain, moine, philosophe, médecin, notre Shakespeare. Attention, Rabelais n'était pas rablaisien, du moins pas au sens où le sens commun a fait échouer l'image d'un Rabelais ripailleur et grossier. En France, par ignorance ou légèreté, on confond souvent l'auteur et son œuvre. Il faut lire Rabelais entre les lignes. Au-delà du spectacle, au-delà des excès calculés, il y a une pensée humaniste exceptionnelle, une finesse et une intelligence rares. Il déteste, il hait tout ce qui lui apparaît bas et malfaisant. Il aime la sincérité dans le rire, ce qu'on a perdu, le rendant parcellaire, étroit, acide, souvent stupide, soumis à des censures. Rabelais ne s'est jamais vautré dans la luxure, dans l'ordure, ne s'est jamais abreuvé comme un porc. Ce n'est pas lui qu'il décrit dans ses œuvres. Il pointe le doigt vers ses contemporains, vers la nature humaine. On ne possède de lui aucun portrait. Tous ceux que vous pouvez voir dans les dictionnaires ou les histoires de la littérature sont des faux. On a imaginé qu'il pouvait avoir ce visage bien longtemps après sa mort. Rabelais, l'ami du roi François Ier, qu'il appréciait pour sa conversation brillante, son élégance, sa délicatesse. Et vous, Rabelais, vous aimez ?
Que propose le protestantisme ? Les Écritures saintes, la Bible, sont les seules sources pour découvrir les vérités de la foi. Trois sacrements, au lieu de sept, sont reconnus : le baptême, la pénitence et l'Eucharistie. Les calvinistes ne reconnaissent que deux sacrements, le baptême et la scène, l'Eucharistie. Les luthériens refusent la transsubstantiation, présence réelle du corps et du sang du Christ après la consécration du pain et du vin. Ils optent pour la consubstantation. Le Christ est présent, mais le pain et le vin conservent leur substance. Les calvinistes décident, eux, que la présence du Christ dans le pain et le vin est seulement spirituel. Pour les protestants, les fidèles sont égaux par le baptême. Les pasteurs n'ont pas de caractère sacré, ils peuvent être mariés. Le culte de la Vierge et des saints est aboli. Le salut dans l'au-delà s'obtient par la foi seule et non par les œuvres, charité, pratique pieuse. L'autorité du pape est rejetée. Que propose le catholicisme ? L'interprétation des Écritures est placée sous l'autorité de l'Église catholique. Les sacrements sont au nombre de sept : le baptême, la confirmation, la pénitence, l'Eucharistie, le mariage, l'extrême-onction, l'ordre, ordination des prêtres. Le principe de la transsubstantation est contenu dans l'Eucharistie. Le pape, les évêques et les prêtres ont un caractère sacré. Ils ont reçu le sacrement de l'ordre. La Vierge et les saints sont honorés. Le salut s'obtient par la foi et les œuvres charitables auprès du prochain. Le pape est infaillible. Ce qu'il dit et décrète doit être observé et appliqué sans discussion. Il ne peut se tromper.
Les secrets de beauté de Diane de Poitiers. Éblouissante déjà à 15 ans, Diane de Poitiers, née en 1499, est mariée à Louis de Brézé, qui a 40 ans de plus qu'elle. elle est dame d'honneur d'Éléonore de Habsbourg, la reine, et se trouve donc dans la proximité de François Ier qui en fait sa maîtresse. Elle le demeure jusqu'en 1547, lorsque François Ier s'éteint, victime d'une fistule tuberculeuse. Depuis 10 ans, cependant, elle n'est plus seulement la maîtresse du roi, mais aussi du dauphin Henri II. Né en 1519, il a 20 ans de moins qu'elle. Il la fait duchesse de Valentinois et lui offre le château de Chenonceau. Leur liaison, qui fait enrager Catherine de Médicis, l'épouse d'Henri II et future reine, durera jusqu'au jour fatal de juin 1559, où, lors d'un tournoi, le roi sera mortellement blessé. Diane de Poitiers était d'une beauté éclatante, aussi belle, aussi fraîche à 67 ans qu'à 15 ans, ont prétendu les observateurs de l'époque. Quels étaient ses secrets de beauté? Peut-être son hygiène de vie. Couchée à 8 heures du soir, elle se lève à 6 heures du matin, prend un bain glacé, un sirop à base d'or, puis se met à cheval pour la chasse au fond des bois. Elle fait une sieste au retour, prend une collation et pratique des exercices physiques nombreux et variés qui réjouissent toute sa personne. Voulez-vous la recette de son eau de pigeon? Elle se compose de jus de liseron, de concombre, de melon, de nénuphar, de fleurs de lys et de fèves. Dans cette mixture, vous faites macérer des pigeons hachés. Ajoutez du beurre, du sucre en poudre, du camphre et de la mie de pain. Versez ensuite du vin blanc. Laissez reposer, puis distillez cet ensemble et vous obtenez l'eau de pigeon de Diane de Poitiers. Ah, nous oublions les mains que vous voulez aussi blanches que les siennes. Massez-les avec des décoctions de feuilles de bouleau et de millet. Le parfum de Diane, le musc, le banjoin, le girofle, la muscade, la gomme arabique. Ce qu'elle porte pour dormir? Le musc, le banjoin, le girofle.